Vous écoutez, on lit pour vous.
Le manque d'accès aux traitements gratuits contre l'insomnie, décrié. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 13 avril 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les traitements contre l'insomnie qui sont gratuits et efficaces ne sont pas assez accessibles, déplorent des professionnels de la santé. La situation est encore plus difficile depuis un an, puisque l'une des seules ressources du réseau public à offrir le traitement privilégié pour ce trouble du sommeil n'accepte plus de nouvelles demandes. Sa liste d'attente est devenue trop importante. Il est question d'insomnie chronique lorsqu'une personne peine à s'endormir ou à rester endormie au moins 3 nuits par semaine durant plus de 3 mois. Au Canada, ce problème touche environ 16% de la population adulte. À ce jour, le traitement reconnu comme étant le plus efficace pour ce trouble du sommeil est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Celle-ci fonctionne en implantant des changements d'habitude, de croyances et d'attitudes par rapport au sommeil. C'est vraiment axé sur la résolution de problèmes, explique Charles M. Morin, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval. Entre 75 % et 80 % des personnes traitées avec cette thérapie améliorent leur sommeil de façon importante. Et pour 50 % d'entre elles, c'est une rémission complète, poursuit-il. Les effets sont aussi très durables dans le temps, ajoute celui qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil. La clinique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil, qui se trouve dans l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, offre cette thérapie. Mais elle est l'une des seules ressources à le faire dans le réseau public. Or, en raison de sa liste d'attente qui compte plus de 500 patients, elle se voit contrainte depuis un an de refuser les nouvelles personnes qui lui sont envoyées pour des problèmes d'insomnie. Le fait de dire non, ça nous brise le cœur à chaque fois, affirme le neurologue et directeur médical des lieux, le docteur Alex Desautels. Nous sommes inondés de demandes. Il m'arrive moi-même de faire de l'insomnie en pensant aux listes d'attente, dit-il en baissant la voix. Depuis la pandémie de COVID-19, la demande pour la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie a grimpé, observe le médecin. Certains patients qu'on contacte présentement sont en attente d'un rendez-vous depuis 2021. Il y a beaucoup de souffrances qui accompagnent l'insomnie. C'est un triste constat de ne pas pouvoir traiter adéquatement les patients dans la mesure de notre volonté et de nos capacités. Le manque d'accès à ce type de traitement gratuit est un réel problème au Québec, estime Charles M. Morin. À long terme, de l'insomnie qui n'est pas traitée augmente entre autres les risques de dépression, d'hypertension et d'absentéisme au travail. Rupture de service. À la clinique que dirige le docteur Desautels, les deux psychologues qui offraient la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie sont partis l'an dernier, explique-t-il. L'une est en pré-retraite et l'autre est allée travailler au privé, dit-il. Récemment, le centre a réussi à embaucher une nouvelle psychologue à temps partiel. On recommence tout doucement à refaire de la thérapie contre l'insomnie, mais officiellement, nous sommes en rupture de service, souligne le médecin. Dans le secteur privé, il existe des psychologues qui offrent de la thérapie cognitivo-comportementale pour ce trouble du sommeil, soulève le docteur Desautels. Lorsque la clinique doit refuser la demande d'un patient, elle lui envoie d'ailleurs une liste de ressources disponibles au privé. Il faut toutefois posséder des assurances privées pour recevoir des remboursements. Il demeure qu'au public, tout comme au privé, les professionnels qui prodiguent ce traitement pour l'insomnie sont encore trop peu nombreux au Québec, dit Charles M. Morin. Cela s'explique en partie par le fait que la formation pour traiter ce problème n'est pas intégrée de manière systématique à tous les programmes de psychologie, note-t-il. Jointe par Le Devoir, l'une des porte-paroles du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, Marie-Claude Lacasse précise que ce ne sont pas toutes les personnes souffrant d'insomnie qui auront nécessairement besoin de psychothérapie. Plusieurs troubles du sommeil peuvent être traités en consultant en première ligne un médecin de famille, indique-t-elle. Des services en santé mentale sont aussi offerts en CLSC, écrit pour sa part Santé Québec. De façon générale, le ministère de la Santé et des Services sociaux dit toutefois reconnaître que l'accès en santé mentale dans le système public est un défi. Il souligne cependant mettre en place de nombreuses initiatives pour répondre le mieux possible à la demande, comme l'octroi de bourses pour inciter les étudiants en psychologie à choisir de travailler au sein du réseau. Et les médicaments? Dans la province, la majorité des gens avec des troubles du sommeil sont suivis par leur médecin pour un traitement en pharmacologie, affirme Santé Québec. Les médicaments remboursés par la RAMQ pour l'insomnie font surtout partie de la classe des benzodiazépines. Les risques associés à la prise de ces médicaments à long terme sont cependant nombreux, comme la dépendance et des problèmes de concentration. Ils ne sont donc pas le meilleur traitement pour une longue durée, avertit le docteur Alex Desautels. À l'heure actuelle, il existe d'autres classes de médicaments qui présentent moins d'effets indésirables et qui sont mieux tolérés que les benzodiazépines, que l'on peut prescrire pour traiter l'insomnie, fait remarquer le neurologue. Mais ceux-ci ne sont pas remboursés par le régime public. Il existe entre autres le lambourexan, un médicament qui agit en bloquant temporairement des neurotransmetteurs présents dans le système nerveux central qui sont impliqués dans le maintien de l'état d'éveil. En février 2023, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INESSS, a toutefois recommandé à Québec de ne pas l'inscrire sur la liste des médicaments pour qu'il soit couvert, explique Marie-Claude Lacasse du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sur un horizon temporel d'un mois et selon la perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux, le traitement d'un patient par le lambourexan s'accompagne de bénéfices de santé semblables à ceux des benzodiazépines, mais constitue une option plus coûteuse, peut-on notamment lire dans la décision de l'Institut. Toutefois, considérant que l'INESSS a reconnu la valeur thérapeutique du produit, une négociation de son prix a été intentée par le ministère avec son fabricant, indique Mme Lacasse. Il leur a cependant été impossible d'arriver à une entente, dit-elle. C'était le manque d'accès au traitement gratuit contre l'insomnie décrié. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 13 avril 2025 dans Le Devoir.
Être authentique au travail, une fausse bonne idée? Un texte de Jean-François Berthollet paru le 25 mars 2025 dans La Presse. J'ai des collègues qui partagent tout, dit Stéphanie, une lectrice. Leurs états d'âme, leurs frustrations, leurs opinions les plus crues, au nom de l'authenticité. Ils veulent être transparents, vrais. Mais parfois, j'ai l'impression que ça devient surtout une excuse pour dédouaner leur manque de diplomatie. Peut-on être trop authentique au travail? Stéphanie. L'authenticité. Le mot est noble, apaisant. On l'associe à la sincérité, à la cohérence, à une forme de droiture morale. Les pharmacies sont d'ailleurs remplies de livres qui valorisent le fait d'être soi-même. Mais lorsqu'on pousse la vertu trop loin, elle peut effectivement se transformer en maladresse, voire vous causer beaucoup de problèmes. Être authentique. C'est souvent défini comme le fait de réduire l'écart entre ce qu'on pense intérieurement et ce qu'on exprime à l'extérieur. En soi, c'est une belle ambition. Mais cela suppose aussi que ce qu'on pense mérite d'être dit tel quel. Et ce n'est pas toujours le cas. La transparence absolue n'est pas forcément une preuve de maturité. Parfois, c'est juste une façon de se décharger sans considération pour l'effet sur les autres. Pensez-vous vraiment que votre vie se porterait mieux si vous aviez le super pouvoir d'entendre ce que les gens pensent, donc d'avoir accès à 100% de leur authenticité? Et d'ailleurs, il faut le dire, Donald Trump a bien des défauts, mais il est authentique. On sait ce qu'il pense et il ne s'en cache pas. Mais on préférerait parfois qu'il ne dise pas tout ce qui lui passe par la tête. Une petite dose de filtre social bien placé peut donc être salutaire. Les recherches montrent que la capacité à s'ajuster selon le contexte, ce qu'on appelle le self-monitoring, est liée à un plus grand succès professionnel. Il ne s'agit pas de se trahir, mais de savoir lire la pièce, adapter son discours, doser son authenticité. Cela dit, l'authenticité a bel et bien des vertus. À force de trop vouloir se contrôler, on s'épuise. Afficher des émotions qu'on ne ressent pas est une forme de travail émotionnel qui peut être énergivore. Être soi-même, c'est parfois plus simple, plus naturel, moins drainant. Et dans un monde professionnel souvent régi par des codes implicites, il y a quelque chose de rafraîchissant à croiser des gens qui se montrent tels qu'ils sont, sans artifice. Mais il faut se rappeler que l'authenticité agit comme un amplificateur. Elle éclaire ce qui est déjà là. Comme l'argent, elle ne nous transforme pas, elle révèle. Si vous êtes généreux, humble ou bienveillant, votre authenticité le rendra visible. Mais si vous êtes colérique ou cynique, elle le fera aussi ressortir. L'authenticité seule n'est donc pas une garantie de qualité humaine, mais permet de mettre en lumière ce que vous êtes. L'authenticité mûre est tempérée par la sagesse et portée par une intention constructive. Pour les leaders, c'est un enjeu encore plus délicat. L'authenticité brandie comme un étendard peut sonner faux. Un dirigeant qui surjoue l'authenticité peut paraître vrai, mais aussi condescendant. C'est comme s'il nous disait que, malgré son exceptionnel statut social, nous sommes privilégiés d'avoir accès à son côté authentique. Surtout quand ceux qui sont véritablement authentiques n'ont pas besoin de le revendiquer. Ils le sont, tout simplement. En somme, être authentique est un idéal souhaitable, mais pas un droit d'exemption à la diplomatie. La franchise brute n'est pas une preuve de courage, et le naturel sans égard n'est pas une vertu. Pour les collègues dont la transparence cause parfois des frictions, vous pourriez leur proposer le test des trois passoires de Socrate afin de ménager leurs élans d'authenticité. Est-ce que ce que tu veux dire est vrai, bon et utile? Si c'est vrai, mais que ça n'apporte rien de bon, mieux vaut peut-être garder cela pour toi. Ce ne sont pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. En résumé, l'authenticité ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt un moyen de mieux incarner ce que nous avons de plus noble. C'était « Être authentique au travail, une fausse bonne idée », un texte de Jean-François Berthollet, paru le 25 mars 2025 dans La Presse.
Comment améliorer la prise en charge des fausses couches? Un texte de Caroline Samihi Esfahani, paru le 19 mars 2025 dans le magazine Québec Science. Les femmes subissant une fausse couche seraient mieux prises en charge dans des structures spécialisées, plaide une urgentologue canadienne. Il est préférable que les personnes subissant une fausse couche précoce évitent les services d'urgence. Voici le constat sans appel d'un éditorial publié début 2025 dans le journal de l'Association médicale canadienne, CMAJ, JAMC, qui dénonce les soins sous-optimaux prodigués aux patientes dans les hôpitaux et leurs expériences fort négatives dans ce moment délicat. On estime que de 15 à 20 de toutes les grossesses cliniquement confirmées se terminent par une fausse couche avant la 20e semaine de grossesse. Or, le suivi obstétrical débute plutôt autour de la 10e semaine de grossesse, ce qui veut dire qu'en cas de complication, la femme enceinte de quelques semaines doit se tourner vers son médecin de famille, les cliniques sans rendez-vous ou les urgences. On parle de fausse couche précoce avant 12 semaines de grossesse et tardive entre 12 et 20 semaines de grossesse. Les éventuelles complications médicales et psychologiques qui suivent l'arrêt spontané de la grossesse devraient plutôt être prises en charge par des cliniques d'évaluation du premier trimestre de grossesse, EPAC, plaide l'autrice de l'éditorial Catherine Varner, urgentologue au Mount Sinai Hospital en Ontario. Ces structures spécialisées, qui ont fait leurs preuves au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, accueillerait les femmes enceintes sans qu'elles aient besoin de prescription ni de passer par un triage. Alors que les urgences d'hôpitaux restent assez techniques, ces cliniques permettraient de prendre en charge les patientes de façon plus empathique et de mieux leur expliquer les options suite à un diagnostic de fausse couche. Selon les cas, la prise en charge peut être non-interventionniste, expulsion naturelle, médicamenteuse ou chirurgicale, rappelle Vrati M. Mehra, étudiante en médecine à l'Université de Toronto et co-autrice d'une revue de la littérature sur le diagnostic et la prise en charge de la fausse couche précoce, publiée en parallèle de l'éditorial. Des progrès notables. Les saignements sont la première raison pour laquelle une femme enceinte, dans son premier trimestre, se présente à l'urgence, rappelle la docteure Catherine Dumas, urgentologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Les pertes de sang se manifestent chez une femme sur quatre pendant le premier trimestre et peuvent être un symptôme de fausse couche ou de complications. Au CHUM, Catherine Dumas voit une dizaine de cas de complications de début de grossesse par jour. Elle reconnaît que les EPAC seraient vraiment très pertinentes, notamment en cas de fausse couche. Toujours est-il que les urgentologues sont des omnipraticiens expérimentés, aptes à intervenir sur tout type de problème médical, note-t-elle. Par ailleurs, la prise en charge des femmes enceintes a changé pour le mieux depuis environ 10 ans. Avant, la patiente allait à l'urgence, on lui disait qu'elle faisait une fausse couche et ciao, bye, se souvient Isabelle Poirier, gynécologue obstétricienne à l'hôpital régional de Rimouski. Le matériel échographique n'était pas toujours accessible 24 heures sur 24 et il n'était pas rare de voir une patiente enceinte revenir plusieurs fois aux urgences dans la même semaine, raconte de son côté Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Aujourd'hui, si les urgentologues stabilisent les patientes en prodiguant des soins de première ligne, la plupart des établissements de santé les réfèrent ensuite à un service d'accueil clinique ou à une clinique ambulatoire externe. Sur ordonnance médicale seulement, ces structures prennent le relais pour diverses pathologies semi-urgentes, dont les saignements vaginaux au premier trimestre d'une grossesse. Ce protocole collaboratif désengorge les urgences tout en assurant un suivi continu, plus enclin au soutien émotionnel des patientes, explique la docteure Poirier. Même si les EPAC sont un modèle intéressant, à l'heure des compressions budgétaires qui jugulent le système de santé, l'expansion des services ne peut être envisagée à court terme, explique le Dr Boucher. Plusieurs études récentes menées au Canada, ou encore cette lettre ouverte écrite par une femme qui a mal vécu sa prise en charge à l'urgence, publiée dans la presse l'an dernier, indiquent toutefois que la prise en charge est encore loin d'être optimale et que la fausse couche est encore souvent banalisée ou minimisée par le personnel médical. C'était « Comment améliorer la prise en charge des fausses couches », un texte de Caroline Samy Esfahani, paru le 19 mars 2025 dans le magazine Québec Science.
Cloîtrer les cardinaux durant des jours. Voici l'origine du mot « conclave ». Un texte de Coffee-Serge Nguessan, paru le 22 avril 2025 dans « Ça m'intéresse ». Alors que les régimes démocratiques s'appuient sur un vote public, cette méthode ne s'applique pas à tous les États, notamment au Vatican. Dans cette cité religieuse, les élections se déroulent de manière très singulière depuis ses origines. Une coutume à l'origine du mot « conclave ». Être membre du Collège cardinalis présente certains avantages, notamment celui de pouvoir voter pour élire le pape. Toutefois, cet honneur peut se révéler contraignant lorsqu'il implique de rester cloîtré pendant plus de 3 mois dans une salle, le temps de parvenir à un accord électoral pour désigner le souverain pontife. Quelle est la raison d'une telle règle? Cet article vous éclaire sur les raisons pour lesquelles l'enfermement prolongé durant l'élection papale est fortement recommandé par le Saint-Siège. Avant l'intervention des cardinaux, l'élection du pape était influencée par la population et des pressions extérieures. Le choix d'un chef d'État peut sembler anodin pour certains, mais il y va de la survie de l'État. Avant toutes les nouvelles technologies qui favorisent une flexibilité des élections à nos jours, les années précédentes étaient souvent marquées par des saisons de défis, de trucages, d'influences, de conflits d'intérêts et de pouvoirs. Des faits qui seront également observés dans les élections du souverain pontife. Pour planter l'historique des choses, notez que le pape, à l'origine, était choisi par le clergé et les fidèles de Rome. Toutefois, cette méthode entraînait fréquemment des conflits et des interférences externes. Des forces exogènes pouvaient potentiellement influencer les votes afin de pencher la balance de leur côté. Ainsi, un pape élu grâce à leur influence fera les affaires de ces forces exogènes. Pour remédier à ces problèmes, le pape Nicolas II, par la bulle In nomine Domini en 1059, restreignit le droit d'élection aux seuls cardinaux. Il établit ainsi une procédure plus structurée des élections papales. Nicolas II, par sa bulle In nomine Domini de 1059, parvient à réduire les influences extérieures à l'élection du souverain pontife, insuffisant pour mener à bien l'élection du pape. Cette réforme visait à réduire l'influence des puissantes familles romaines et des autorités laïques sur le processus électoral. Malgré ces efforts, les élections papales restèrent sujettes à des ingérences politiques. Ces dernières concernent notamment les empereurs du Saint-Empire romain germanique et les monarques européens. Des périodes de vacances prolongées du siège pontifical, comme celle de 1268 à 1271, poussèrent le pape Grégoire X à instituer le conclave lors du Concile de Lyon en 1274. Cette procédure imposait l'isolement des cardinaux électeurs jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Mais la particularité de cette nouvelle norme impose des restrictions croissantes sur leur confort. L'idée vise à accélérer le processus de l'élection. Est-ce donc l'origine du mot conclave? En partie, les écrits historiques martèlent bien que, oui, l'origine du mot conclave vient du latin cum clave, qui signifie avec clé. Cum, qui veut dire en latin avec, et clave, qui veut dire clé. Comme évoqué dans le précédent paragraphe, cette expression fait référence à l'isolement strict des cardinaux électeurs dans un lieu fermé à clé jusqu'à ce qu'ils désignent un nouveau pape. Ce mot prend sens lors du conclave de 1268. En effet, lors du conclave de 1268, considéré comme le conclave le plus long de l'histoire de Rome, il y a eu un véritable bras de fer entre le peuple et les forces exogènes. Ce qui a multiplié les jours de cette élection qui a finalement duré plus de 3 ans. À Viterbe, en Italie, les cardinaux vont passer 1006 jours pour tenter de trouver une issue à cette élection. Des pressions de part et d'autre qui donnent le sens que nous savons aujourd'hui du conclave. Sous une extrême pression extérieure, notamment par le roi de France et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, les cardinaux ne se comprenaient plus. Dehors, la pression est encore plus pénible avec le peuple qui désire illico presto un chef exécutif sur Rome. Ce bras de fer entre peuple d'un côté et influence politique externe de l'autre pousse le peuple à enfermer à clé les cardinaux chargés du vote afin que ces derniers élisent plus rapidement le pape. Le mot « conclave » prend véritablement sens. Mais le peuple ne s'arrête pas en si bon chemin. Vu que l'élection perdure au Saint-Siège, il va plus loin en réduisant l'approvisionnement en nourriture des cardinaux et même en retirant le toit de leur lieu de délibération pour accélérer le processus. En septembre 1271, les cardinaux n'ont d'autre choix que de trouver un compromis. Grégoire X devient pape, le poussant à instaurer des réformes plus strictes lors du Concile de Lyon de 1274, ce qui lui permet d'établir les règles quasi modernes du conclave. En quelle année voit le jour le premier conclave de l'histoire? Comme déjà évoqué précédemment, le premier conclave de l'histoire, tel qu'institutionnalisé dans le cadre d'une élection papale, a eu lieu en 1276 à la suite des réformes du pape Grégoire X adoptées lors du Concile de Lyon en 1274. Ces règles faisaient suite au conclave extrêmement long de 1268-1271 et visaient à accélérer le processus électoral en isolant les cardinaux électeurs, cum clave, sous clé. Bien que cette nouvelle procédure n'ait pas été utilisée immédiatement après le concile, elle a été mise en œuvre pour la première fois lors de l'élection d'Innocent V, ce qui marque un tournant dans l'histoire des élections papales. C'était « Cloîtrer les cardinaux durant des jours ». Voici l'origine du mot « conclave ». Un texte de Coffee-Serge Nguessan, paru le 22 avril 2025 dans « Ça m'intéresse ».